Ok, bonjour à tous. Salut Jean-Brice.
Salut Jérémy.
Ok, bon, on est reparti pour une petite interview. Donc, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, moi je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et donc j'ai une chaîne qui s'appelle Vitality TV. On parle de naturopathie, de santé naturelle. Et donc, aujourd'hui, on est avec Jean-Brice, qui est un naturopathe depuis de nombreuses années, qui est
Plus de 30 ans,
formateur, plus
ouais.
de 30 ans, ouais. Il a créé une école, l'école alsacienne de naturopathie. Donc, il forme des naturopathes, il organise des stages de santé. Donc, il est naturopathe depuis plus de 30 ans. Il a une chaîne YouTube également qui s'appelle Réflexion Santé Naturopathique. Et c'est également un sportif de longue date. Donc, tout ça combiné, voilà, fait qu'on a quelqu'un de très intéressant aujourd'hui à qui on va pouvoir poser des questions. Alors, pour commencer, Jean-Brice, dans ton actualité, on peut voir sur ta chaîne que tu as démarré une expérimentation d'alimentation cétogène, et on va dire cétogène strict, parce que voilà, tu as fait une vidéo officielle où tu dis que voilà, tu vas essayer de faire cette alimentation de façon stricte. Donc moi, je voulais déjà savoir, toi, tu es quelqu'un qui a vu passer quand même beaucoup de choses au fur et à mesure de ces dernières années, tu as dû voir quand même passer plein de régimes, tu es quelqu'un qui s'est remis en question plein de fois par rapport à des points un petit peu anciens de la naturopathie. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir passer, à vouloir expérimenter le régime cétogène?
Alors, d'abord, c'est la curiosité et comme la fin d'un cheminement, en fait. J'ai l'impression que tout conduit à ça quand tu suis un petit peu les révolutions au niveau de la physiologie, des recherches sur l'alimentation. Alors, tout, pas pour tout le monde, hein, parce que il y a encore des hygiénistes qui continuent à être plutôt dans des régimes très riches en glucides et en végétaux. Et moi, depuis quelques années, j'avais basculé plutôt vers du low carb, mais en faisant, j'ai l'impression que, alors c'était très bien, ça me convenait bien, l'énergie était bonne, mais tu vois, j'ai passé la cinquantaine depuis 2-3 ans, et il y a des petites choses qui se passent, tu vieillis, et tu t'aperçois que ben, tu prends 1 ou 2 kilos. Tu vois, tu te dis, c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours été mince. Voilà, j'avais du mal à prendre du poids quand j'étais jeune. Et le fait d'avoir réintroduit d'ailleurs plus de protéines animales, de graisses et tout ça m'avait permis de regagner un peu de masse musculaire. Et j'en étais super content ces dernières années. Mais tu vois, là, j'avais pris 1 ou 2 kilos et même un petit peu de graisse en périphérie et tout. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui s'installe. Et derrière, j'avais une histoire familiale où j'ai ma mère qui a des diabètes, enfin, ça fait 10 ans, hein, qui est stabilisée maintenant. Et elle n'en est pas encore à se remettre en cause comme moi, mais elle stabilise tout ça. Et puis, avec toute l'explosion des maladies métaboliques et les travaux que j'ai menés autour de ça, parce que je m'y suis beaucoup intéressé, hein, tu sais, au diabète et tout ça, j'ai écrit un bouquin sur les maladies métaboliques. Et le diabète, en suivant des patients, en essayant d'inverser leur diabète depuis 6-7 ans maintenant, et avec des résultats vraiment intéressants. Et pour moi, je me suis dit, ben, voilà, ce que je propose dans mon protocole, si j'ai appelé ça, pourquoi je n'irais pas au bout du truc. Tu vois, en low carb, tu manges 50 à 100 grammes de glucides par jour, tu te dis, ça va, c'est pas beaucoup et tout. Et puis en fait, tu t'aperçois, alors j'ai fait mes analyses de sang et tout. Et puis l'année dernière, j'avais quand même une hémoglobine glyquée, tu vois, qui était à 5,7. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le taux de glucides sur 3 mois dans le sang qui circule. Le problème, c'est que quand tu arrives à un seuil de 5,8 à peu près, tu vois, tu arrives à une limite. Et cette limite-là fait que tu gardes des glucides dans ton sang en continu. Et sans doute avec des niveaux d'insuline, tu vois, qui peuvent un petit peu monter derrière. Alors, pas forcément, hein, parce que tu peux avoir des niveaux de glucides dans le sang proches de 1 gramme, tu te dis tout va bien, mais en fait, parce que c'est compensé par une insuline qui est très haute, ou l'inverse, tu as des gens qui ont un taux d'insuline qui est bas avec des taux de glucides qui restent autour de 1 gramme, mais en ayant des pics, tu vois, de glycémie. Bon, voilà. Et je me suis dit quand même, 5,7% d'hémoglobine glyquée, ça veut dire que c'est proche de 1 gramme, hein, c'est 1 gramme de sucre dans le sang. Et dans une approche métabolique, ce n'est pas l'idéal. Tu vois, tu dois être en dessous de 5,5 dans toutes tes recherches qui sont faites. sur ce qui crée des fatigues métaboliques, hein, c'est-à-dire des débuts d'hyperglycémie, d'hyperinsulinémie, de dégénérescence neurologique, etc. Tu as beaucoup de choses qui démarrent, on va dire, au-delà de 6% de glycémie, d'hémoglobine liquée. Alors, certains vont te dire que c'est plutôt 6,5%, voire 7%, 1,4 g de glucose dans le sang. Mais en fait, tu vois, ça commence, il y a des prémices qui se sentent avant. Et je me suis dit quand même, tu dois être un top métabolique si déjà tu proposes tout ça. Voilà. Et ce petit kilo que tu as pris, que tu n'arrives pas bien à perdre et tout, ce n'est pas normal. Alors, je me suis dit, ben voilà. Faut que je me lançais et c'est ce que j'ai mis en place. Donc j'ai mis en place quelque chose, voilà, où vraiment strict, je vérifie que mes taux de glycémie, mes taux d'insuline restent au plus bas. Et donc là, au bout de 2 mois et demi, donc ma glycémie avait baissé et mon insuline aussi, hein, elle est à moins de 3 unités internationales, hein, au lieu de 4,5, qui est déjà une bonne limite, hein, c'est très bien 4,5. Et puis mon hémoglobine K est descendu à 5,4. Ce qui pour moi est bien, sachant que je viens d'une famille où on a tendance à avoir une petite résistance à l'insuline, je pense, du côté maternel. Voilà un petit peu pourquoi moi j'ai eu envie d'expérimenter et aussi parce que bon, j'ai mon beau-frère qui s'y est mis, qui fait du trail, il y a beaucoup de sportifs autour de moi qui font ça. Moi je l'avais expérimenté pendant 2-3 mois avant de faire mon trail pour mes 50 ans, hein, et pour prouver qu'on pouvait courir sans se supplémenter, en sucre, à jeun, sans ravitaillement, voilà, pendant plus de 2 heures. Et effectivement, c'est ce que j'avais montré il y a 2 ans et demi. Voilà, mais je me suis dit, mais non, voilà, j'ai envie d'aller un peu plus loin, et puis on verra ce que ça donne.
D'accord. Ouais, t'as raison. Bon, je viens de regarder les chiffres officiels. Bon, on sait que ce n'est pas forcément les normes santé, mais l'hémoglobine glyquée au-dessus de 6%,
Ouais.
on passe dans du diabète, hein, donc
Du
pré-diabète.
prédiabète,
Ouais, pré-diabète,
prédiabète, voilà, mais
ouais.
ça veut dire déjà qu'il y a une résistance à l'insuline, tu
Ouais.
vois.
D'accord. Ok, très bien. C'est clair pour moi. Alors du coup, cette expérimentation, donc tu étais déjà en low carb. Concrètement, comment tu vas t'y prendre? Est-ce que tu vas mesurer tes cétones? Tu vas mesurer ta glycémie? Est-ce que tu vas monitorer un petit peu certaines choses? Ou est-ce que tu vas te fier entièrement à ton ressenti?
Alors, non, moi, je vais quand même mesurer les choses. Ça fait 2 mois, hein, que je fais ça, 2 mois et demi. Donc, voilà, je me suis dit quand même, il y a un moment donné, il faut que tu saches ce qui se passe dans ton corps. Je trouve que les analyses ne doivent pas être systématiques. On est d'accord. Mais il y a un moment donné, il te faut un point de départ, un point de repère au milieu, puis un point d'arrivée, hein, un objectif à atteindre en termes de chiffres qui parlent plus que, des fois, que les ressentis. Parce que les ressentis peuvent être trompeurs. On peut être très bien avec 6% d'hémoglobine liquée. Voilà, il y a aucun souci. Bien sûr qu'il y a des symptômes, des effets physiologiques, cliniques que je veux observer. Hein, je veux être en meilleure santé. Je veux plus avoir de fringales et des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on observe et qu'il faut observer. Mais c'est bien d'objectiver les choses, je trouve, pour avoir des repères. Voilà. Je trouve que et c'est trompeur. On a l'impression qu'on est en cétose parce qu'on fait bien les choses. Et puis en fait, on ne les fait pas si bien que ça. Et tu t'aperçois que tu as des cores cétoniques, ils ne sont pas si élevés que ça. Et donc, il faut corriger un petit peu, il faut réajuster sans arrêt. Voilà, donc je prends ma glycémie 2 fois par semaine. Tu vois, ce n'est pas beaucoup, hein, 2 fois, 3 fois par semaine maximum. De temps en temps après le sport, de temps en temps, après, 2 heures après un repas, de temps en temps à jeun, pour voir un petit peu les choses où j'en suis. Et puis, je prends mes cores cétoniques. Voilà. Pareil, hein, une goutte de sang sur une languette. Et ça te donne un repère. Voilà. Et donc, pour l'instant, je ne force pas les choses. Pour te dire, hein, il y en a qui disent que tu es céto-adapté quand tu es à 1,3 de millimoles. D'autres, ils te disent non, pas du tout, à 0,5, tu es déjà en cétose et ça suffit, ce qui est vrai, tu es en cétose. Mais non, il y a plusieurs objectifs quand tu es en régime cétogène. C'est est-ce que tu vas chercher à des taux de cétose très élevés qui vont avoir un effet thérapeutique? C'est-à-dire, tu as une pathologie inflammatoire lourde, voire un cancer, voire d'autres choses costauds, tu vois, des maladies métaboliques. Là, tu vas rechercher des niveaux de cétose très élevés, thérapeutiques, on appelle ça, au-delà de 1,4 millimoles, tu vois. Donc, moi, je navigue entre 0,5 et 1,4. Je ne l'ai pas fait souvent, mais tu vois, je navigue tout le temps entre ces deux chiffres. Et apparemment, ça suffit pour être en cétose, pour devenir un bon brûleur de gras, etc. Hein, bien exploiter tes cores cétoniques. Donc ça, c'est l'objectif du régime cétogène. Et tu as déjà des effets anti-inflammatoires, des choses avérées. Donc, si tu me poses la question sur les effets après, je pourrais te dire exactement tout ce qui s'est passé en termes de ressenti aussi et de ressenti voilà, corporel.
Bah, on peut rester là-dessus. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as démarré? Donc, à
Ben, j'ai
quelle
démarré
date?
tout début décembre.
Début décembre?
Ouais, 1er
D'accord.
décembre, un truc comme ça.
OK. Donc, la première période, hein, c'est la période d'adaptation. Chez toi, elle a duré combien de temps à peu
T'as
près?
une quinzaine de jours apparemment où tu voilà, où ça c'est théorique, hein.
Ouais.
Voilà. Bon, j'étais déjà, je veux dire, en low carb avec des jeûnes intermittents, donc tu vois, la transition elle s'est déjà faite rapidement, hein.
Ouais.
Donc il te faut une quinzaine de jours où tu vérifies que dans tes urines tu produis bien des corps cétoniques, mais si tu les retrouves dans tes urines, ça veut dire que tu les utilises pas encore bien au niveau cellulaire.
Ouais.
Donc en fait, c'est pour ça que tu les élimines, parce que ton corps est toujours habitué à brûler du sucre, hein, à utiliser son carburant glucidique habituel depuis très longtemps. Et à partir d'un certain seuil de glucides que tu consommes, hein, que tu ne consommes plus plutôt, donc au-delà, on va dire en dessous de 20-30 grammes max de glucides au début, ben, ton corps produit des corps cétoniques, hein, ils brûlent des graisses, sont transformés dans le foie en corps cétoniques et qui sont utilisés ensuite par la cellule. Alors au début, c'est le cerveau qui les utilise, hein, voilà, parce que les muscles ne savent pas encore bien l'utiliser. Et au bout de 10-15 jours, tu vois que tes seuils de BHB, enfin d'acétocétate plutôt, les corps cétoniques qu'on retrouve dans les urines, ils commencent à diminuer. Hein, tu as la petite bandelette qui était un peu rosée violette au début, puis elle devient rose clair. Et là, tu sais que tu continues de les utiliser, tu commences à les utiliser, voilà, au niveau cellulaire. Et donc, c'est ce qu'on recherche. Et donc, après, ça ne sert plus à rien de mesurer les bandelettes. Donc, ça, j'ai laissé tomber. Et par contre, bah, tu vois que tes corps cétoniques, ils montent au niveau sanguin. Hein, voilà, tu passes d'un petit chiffre à 0,5, 0,7, 1,2, etc. Voilà. Mais j'ai jamais dépassé 1,4, alors qu'on te dit, quelqu'un qui est vraiment céto-adapté, il est constamment au-dessus de 1,3. Alors, il y a différents courants. Hein, voilà. Tu as ceux qui se battent pour te dire, voilà, il faut que tu dépasses le 1 millimole. D'autres qui te disent à 0,5, c'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin d'aller plus haut. C'est ceux qui sont dans le même débat. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de protéines ou pas beaucoup de protéines dans un régime cétogène? Donc après, si tu veux en parler aussi, on verra tout ça.
Ouais. Est-ce que tu peux donner des détails sur peut-être ce que tu fais niveau alimentation? Est-ce que tu comptes vraiment les glucides? Enfin, comment tu fais?
Alors,
Comment tu.
je ne me prends pas la tête, disons que moi, avec mon expérience, je sais à peu près combien il y a de glucides, de lipides, protéines, de macronutriments dans chaque aliment.
Ouais.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises, hein, en général. Donc, pour t'expliquer, en fait, moi, je suis dans une alimentation plutôt aléatoire. Je n'ai pas trop changé ça. Quand je dis aléatoire, c'est soit je déjeune, soit je ne déjeune pas.
Ouais.
Voilà, donc il y a le débat aussi du jeûne intermittent le matin ou le soir, etc. Bon, moi, je le fais quand j'en ai envie.
OK.
Je ne me pose pas cette question, c'est-à-dire que quand mon corps, je me lève le matin, j'ai envie de manger, ben je mange. Quand je n'ai pas envie de manger, je ne mange pas. J'ai un cortisol peut-être un peu plus élevé. Et je trouve que quand tu as un cortisol élevé, tu n'es pas fait pour digérer. Ce n'est pas le bon moment. Donc, je pars, voilà, il n'y a pas de souci, je m'adapte très bien. Il y en a qui vont te dire que ça va faire chuter ton métabolisme et tout ça. Bon, chacun est différent. Et c'est vrai que, bon, il y a des moments donnés où je sens qu'il faut que je mange, donc je mange. Donc, quand je mange le matin, ben, moi, je mange des œufs, je ne m'embête pas, ça ne change pas, hein, par rapport à ce que je faisais en low carb. Des fois, je rajoute un petit peu d'avocat ou un bout de saumon s'il en reste un de la veille, mais c'est vraiment rare. Je me contente de 3 œufs coques avec un peu de sel et c'est réglé, quoi. Voilà. Et sinon, je pars comme ça, à jeun. Et sinon, dans la journée, j'ai toujours une protéine à chaque repas. J'essaye, moi, de ne pas dépasser 150 grammes de viande ou de poisson par repas. J'essaye de maintenir 30 grammes de protéines par repas, pas plus, pour mes 72 kilos, là. C'est-à-dire, j'essaye de ne pas dépasser les 1 gramme, 1,2 grammes, certains jours, de protéines par kilo de poids de corps. Alors, il y en a, ils vont te dire, tu peux aller facile jusqu'à 2 grammes, tu fais du sport, tu vas aller brûler, même si ça fait de la néoglucogénèse, machin, et tout ce que tu veux, ok. Il y a des jours, je ne regarde pas, hein, je vais à satiété, il n'y a aucun souci, mais en général, à la satiété, je préfère l'amener par du gras, augmenter un peu mes corps cétoniques et puis pas stimuler mes facteurs de croissance. Et tu vois, je suis à un âge où même quand tu manges beaucoup de protéines, tu entraînes une sécrétion d'insuline quand même. faut le savoir, hein, même si elle est beaucoup moins élevée que quand tu consommes des féculents ou du sucre, ou des desserts ou des fruits, on est d'accord. Mais tu as quand même ce petit truc-là qui est là. Tu peux fabriquer un petit peu de glucides, hein, en églucogénèse, c'est-à-dire que les protéines peuvent, si elles sont consommées vraiment en excès, une petite partie sera transformée en glucose. Ce n'est pas dramatique en soi, le corps peut le brûler, mais il y a une stimulation de facteurs de croissance derrière. Donc voilà, moi je ne suis pas dans une exagération des protéines, ça m'amène une satiété. Tu vois, c'est 120, 150 grammes de viande, de poisson, voilà, ou même une part de fromage, voilà. Mais je ne vais pas au-delà. Voilà. J'essaye de pas m'exciter sur les protéines, comme certains peuvent le faire. Et je préfère ajouter du beurre, tu vois, dans mes plats. Donc, c'est tout simple, hein. Je prends ces 100 grammes, 120 grammes de protéines, de viande, et je me mets toujours une petite entrée. J'ai gardé une petite partie de légumes. Pas tous les jours, c'est-à-dire que pas... il y a des repas où j'ai pas envie de légumes et je me prends un plat, tu vois, un poisson avec de la crème et c'est tout quoi. Ça m'arrive de faire ça, mais la plupart du temps, j'ai toujours des légumes lactofermentés en hiver. Tu vois, mon truc ici en Alsace, on
La
a la chance
choucroute.
d'avoir de la choucroute et du navet salé. C'est lactofermenté, les deux, tuerie, c'est hyper bon. Tu as des ferments, tu as des vitamines, tu as des minéraux, tu as un produit qui contient beaucoup moins de lectines, beaucoup moins d'antinutriments, parce qu'il est lactofermenté. Donc, c'est une forme de préparation, de prédigestion. Et je trouve ça sympa. J'adore ça et je digère bien. J'en prends pas beaucoup, hein. Vraiment une petite portion comme ça, tu vois, dans mon assiette, c'est vraiment rien. Mais ça me met en bouche le repas. Je mets un petit peu d'huile d'olive dessus et c'est parfait, tu vois. Et puis derrière ton plat, et de temps en temps, quand j'ai un légume cuit, voilà, je rajoute des choux comme ça en crudité, et je mets beaucoup de graisse dessus. Donc je mets le plus possible de beurre. Moi j'adore le beurre. J'ai du beurre cru, au lait cru ici, qu'on trouve fait avec un élevage qui pâture. Donc c'est sympa. Ça, il faut trouver, c'est la base. Je trouve que c'est la base de l'alimentation cétogène, c'est le beurre. Il y en a, ils rajoutent aussi des graisses animales. Hein. Moi, de temps en temps, j'ai de la graisse de d'oie, de la graisse de porc, du saindoux, quoi. Voilà, mais je préfère le beurre, quoi. Et toujours un peu d'huile d'olive, voilà. Par contre, j'ai éliminé au maximum les graisses polyinsaturées. Voilà, qui sont pro-oxydantes et qui sont pas aussi bonnes, tu vois. Ça a été une grande révolution, ça, tu vois, depuis ces dernières années, pour les naturaux, hein, qui venons de l'hygiénisme, où on avait bassiné avec tous ces acides gras polyinsaturés, hein, ces fameux oméga 6, ces oméga 3, surtout végétaux. Alors, bien sûr, j'ai des oméga 3 animaux, hein, dans les poissons. J'essaye d'avoir toujours un petit peu de foie, de morue, tu vois, dans l'alimentation. Enfin, après, quand tu as des animaux qui ont pâturé, tu as aussi un peu d'oméga-3 hein, dedans. Et puis, bien sûr, les poissons, quoi, hein, tous les poissons gras, les harengs, les saumons, les petits poissons maquereaux, sardines, tout ça, tu en as dedans. Hein. Donc ça, j'essaye d'en avoir au maximum. D'ailleurs, en Alsace, on trouve des harengs à la sauce alsacienne. Et j'ai trouvé une petite dame qui fait ça pas loin de chez moi. Je prends ça par seau de 5 kilos, là. C'est génial. Et donc, j'en prends un petit morceau. Mais je ne dépasse pas tu vois, les 120 grammes de poisson hein, dans par repas. Hein. Mais j'ai de la crème avec. Ou, voilà. J'ai pas trop, j'exagère pas sur les produits laitiers. Voilà. Mais je rajoute toujours du beurre ou des matières grasses. C'est 75%, on va dire, hein, des apports caloriques quand même. Donc, il faut y aller, quoi. Ça a été aussi la petite difficulté du début, ça, en général, en cétogène. Hein.
Tu comptes tes quantités de beurre ou tu mets comme ça à la
À
louche?
la fin de la journée, je vois ce que j'ai consommé quand même, tu vois. J'ai ma motte de beurre et j'essaye quand même d'avoir en beurre, je dirais, au moins 80 grammes rien que pour le beurre.
Ok, ça marche.
Ajouté. Je dois être à, tu vois, une centaine de grammes de graisse ajoutée par jour. Voilà. Je suis pas, j'essaye pas de taper dans les 150, 200, parce que bon, j'en ai aussi dans les. Quand tu manges de la viande, du poisson gras, tu en as un peu. Mais il y en a qui te disent qu'il faut au moins aller jusqu'à 150 grammes, voire 200 grammes de graisse ajoutée. Je trouve que Si j'avais vraiment besoin de monter mes corsets toniques, je le ferais. Là, pour l'instant, j'ai pas de pathologie, j'ai déjà des effets sympas, donc voilà, on verra.
Ok, d'accord. Est-ce que tu as gardé des fat bombes ou pas?
Ouais. C'est-à-dire de temps en temps, je me fais un petit dessert, ouais. Comme ça, je mélange du chocolat noir avec de la crème, de l'huile de coco, de la farine de coco, enfin des paillettes de coco, tu vois, que je mets dedans en plus. Je rajoute un peu de beurre toujours, voire un peu de crème. Je fais vraiment une base de graisse. Et puis, il y a ce petit goût de chocolat que je rajoute, du 90, 92, 100%, pour le petit goût, quoi. Et
Ok,
ça, je
d'accord.
prends en fin de repas. Alors, des fois, je ne l'ai pas fait, je prends un carré de chocolat noir, hein, ça me suffit. Et je rajoute, des fois, de temps en temps, je me fais un petit peu d'huile de coco, tu vois, entre les repas.
D'accord.
Tu vois, une petite boisson chaude avec un peu d'huile de coco, ou il y a certains qui achètent des huiles MCT. Je fais tester à ma femme, moi, j'en ai pas vraiment besoin. Mais elle avait besoin de remonter un peu ses corsets toniques. Elle n'arrivait pas à rajouter trop de gras dans les plats, donc elle en prend un petit peu entre les repas.
D'accord, okay, très bien. Bah, venons-en aux effets alors dont on parlait tout à l'heure. En ces 2 mois, qu'est-ce que tu as pu remarquer comme effet?
Alors, moi, tu vois, quand j'étais en low carb, j'avais toujours envie de manger du sucre en fin de repas. Et puis quand je rentrais du boulot ou en fin de journée, tu vois, vers 17, 18, 18 heures, tu sais, tu relâches la pression et tout ça, t'as faim, t'as un petit appétit qui vient. Et là, j'avais quand même de temps en temps envie d'un encas, tu vois, d'un truc, voire d'un truc sucré. Donc, tu te jettes sur des fruits. Moi, je pouvais prendre de la purée de noisettes avec un peu de chocolat, tu vois. J'avais quand même envie de compenser par du sucre. Et tu vois, se dire, c'est quand même bizarre que même si tu fais attention à tout ce que tu manges et tout ça, tu as quand même besoin d'un petit truc sucré à un moment donné dans ta journée. Alors moi, entre les repas, je ne mangeais pas, hein, je veux dire, le matin, tout ça, sauf à 5 heures, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, mais j'ai quand même une petite accoutumance, c'est quand même une petite accoutumance au sucre. Donc, je me suis dit, bah, peut-être que le cétose le fera passer, c'est un des objectifs hein, d'ailleurs. Et effectivement, tu rentres, tu n'as plus faim, ou si vraiment tu as envie, absolument, par habitude, de manger un petit truc, tu vas manger un petit bout de fromage ou, tu vois, un peu de du coco avec ou trois noisettes, et puis c'est bon, quoi. Mais franchement, entre les repas, rien, même si tu ne manges pas le matin, rien. Donc là, ça, normalement, quand tu ne manges pas le matin, tu n'as pas de poussée d'insuline, donc tu n'as pas d'hypoglycémie derrière et tu n'as jamais faim. Donc ça allait le matin. Mais souvent, vers 5 heures, je te dis, j'avais voilà, ce petit truc, envie de manger. Pas forcément une hypo, mais ça voulait dire quand même qu'il y avait peut-être un peu de résistance à l'insuline derrière, des petites choses. Là, c'est fini. Donc plus de fringales. Tu peux sauter un repas comme tu veux parce que tu n'as pas faim. C'est l'heure du repas, tu dis, ah, je vais bosser 1 heure de plus. Tu bosses 1 heure de plus, tu t'en fous, quoi. Comment te dire? Après, des disparitions d'inflammation. Donc là, on a constaté ça avec ma femme. La première, parce qu'elle avait une douleur qui partait du haut de l'épaule jusqu'au coude. C'était une sorte d'inflammation, pas forcément une tendinite. On n'a jamais vraiment su ce que c'était. Ça a duré tout l'été. Et enfin, pas tout l'été, ça avait démarré fin de l'été, ouais, au mois d'août, je crois, août, septembre et octobre, novembre, elle avait encore mal et tout. Elle se dit, putain, c'est pas possible. Et puis, alors, je sais pas ce qu'il a décidé, ma femme, hein, parce qu'elle elle ne suivait pas tout à fait en nutrition habituellement. Et elle était plutôt accro à quelques petits trucs industriels, tu vois, au bretzel, entre les repas et tout. Elle mangeait correctement à table avec moi. Hein, je veux dire, on mange bio, des crudités, il n'y avait pas masse de féculents et tout ça. Hein, voilà. Mais il y avait des écarts voilà, réguliers. Et donc, elle démarre le céto avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle ne sait toujours pas pourquoi non plus. Peut-être que l'âge, elle avait peut-être envie de perdre du poids aussi, bon, ce qu'elle m'a dit, peut-être après. Et au bout de 3 semaines, disparition totale de ses douleurs. Tu vois, moi, j'avais un petit point d'inflammation dans une épaule qui a disparu. Je m'étais blessé au genou juste avant de démarrer cet eau. Ça ne partait pas. J'avais donc fait une élongation. Enfin, le tendon qui avait été vraiment abîmé. Ça ne partait pas. Ça a duré tout le mois de novembre. Et ça m'embêtait un petit peu, tu vois, pour faire je fais encore du foot, des trucs comme ça. Et pareil, au bout de 3 semaines, le truc descendu, plus rien. Alors, bon, ça aurait peut-être fini par passer un jour, hein, bien sûr. Mais là, c'est vraiment que ça a correspondu avec ça. Et un point d'inflammation dans l'épaule que j'ai depuis très longtemps, dû à enfin, j'ai une épaule, j'ai un manque de souplesse depuis que je suis jeune, hein, que je fais de l'haltérophilie et tout. J'avais toujours ça quand j'étais jeune. Et j'avais un point tendineux. Et là, il commence à s'estomper. Vraiment. Tu vois, c'est un truc que j'ai depuis des années. Alors, pas fort, tu vois. Une fois chaud, je le sens plus. Mais là, c'est quelque chose qui s'estompe vraiment, quoi. Voilà, et tu sens qu'il y a des choses qui se passent de ce type-là. Tu sens que tu vas sur un terrain beaucoup moins inflammatoire quand même. Même si je te dis, moi, je n'avais pas une alimentation, tu prends la moyenne des gens, ils vont te dire, déjà, ce que je faisais avant, c'était un truc de dingue, quoi. Je ne buvais pas d'alcool, enfin, je buvais un verre tous les 3 semaines, un mois, voilà, c'est tout, quoi. Et j'avais 50-100 grammes de sucre par jour, de glucides, totaux, hein,
Ouais.
tout, en comptant les fruits, tu vois. Voilà, donc aujourd'hui j'ai plus de fruits. Hein. Et si je garde du citron, citron
Ça
pressé, voilà. Mais après tu kiffes le moindre truc un peu sucré, ça
va.
explose dans ta bouche et tes besoins en glucides, ils sont bien moindres, quoi. Voilà.
D'accord.
Alors après, moi au départ, je n'avais pas de pathologie, donc je ne peux pas te dire si les choses ont évolué. Mais à part ces petits états inflammatoires, que du mieux, quoi. J'ai perdu 1 kilo. Bon, j'avais pas vraiment, j'avais ce petit truc en plus. J'ai un peu séché sans perdre de muscle, quoi.
D'accord. Pas d'effet négatif à noter pour l'instant?
Alors, pas d'effet négatif. Comment te dire, au début, j'ai eu des, tu vois, dans l'adaptation, tu as des petites phases où tu as un peu des nausées. Le gras, au début, tu n'es pas habitué. Donc, j'ai eu des petits relents, 2, 3 jours d'état nauséeux, tu vois, où tu dis, bon, la vésicule biliaire, elle n'est pas encore prête. Mais il faut
Ouais.
savoir que ça fait partie de l'adaptation, ça aussi. C'est-à-dire que ta vésicule biliaire, au début, elle n'est pas habituée à sécréter autant de bile à chaque fois que
Ouais.
tu manges. Et elles sont un peu atrophiées, nos vésicules biliaires.
Ouais.
Parce que nos ancêtres, ils mangeaient beaucoup plus de graisse que nous aujourd'hui. Ils avaient une puissance métabolique, une puissance de digestion des graisses beaucoup, beaucoup plus élevée. Mais ça, il faut quelques jours, tu vois, pour t'y habituer. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de… Voilà, c'est juste un petit passage. Et effectivement, tu ne peux pas te dire, voilà, en l'espace de… Ça fait 50 ans que je mange du sucre. Et
Ouais.
là, j'en mange moins de 20 grammes par jour et je mange, allez, 5 fois plus de graisse par jour. Ça ne va pas se faire comme ça, par un coup de baguette magique. Hein. Donc, mais je trouve qu'en 2 mois, c'est super adapté et c'est étonnant, quoi. Ça ne se passe qu'en 2 mois, cette transition métabolique, voire moins. Hein. Je veux dire, en 1 mois, j'étais déjà bien adapté, quoi. Après, physiquement, tu as une adaptation. C'est-à-dire que le premier mois… Dès que je faisais un peu d'accélération, de HIIT, tu vois, de sport à intensité plus élevée,
Ouais.
voilà, de suite le cœur y monte et t'es
Ouais.
dans le rouge, tu vois.
Ouais.
Par contre, il faut bien t'échauffer et tu t'aperçois qu'au bout d'un certain temps, tu te sens mieux, quoi. Et là, tu peux aller taper un petit peu plus. Mais pour les efforts intenses, je pense qu'il faut bien 2 mois d'adaptation. Voilà. Après, on va te dire pour commencer à être un bon brûleur de gras. Parce qu'il y a deux choses en régime cétogène que j'ai compris, que je n'avais pas compris il y a 3 ans. Moi, je pensais que tes muscles, ils utilisaient que les corps cétoniques. Tu vois, la graisse se transformait en corps cétonique et tu brûlais les corps cétoniques. Ce qui est vrai. Mais c'est surtout le cerveau qui fait ça. Et ton cerveau, il fonctionne après à 80% sur les corps cétoniques. Il y a toujours une petite part d'utilisation de glucose. Hein. Et par contre, tes muscles, eux, ils brûlent, ils n'utilisent pas les corps cétoniques, ils ne savent pas bien le faire. Ils utilisent la graisse directement, les lipides. Et ce mode brûlage de graisse, en fait, tu ne l'obtiens de façon efficace qu'au bout de plusieurs mois d'adaptation en régime cétogène. Et tous les coureurs de fond, de trail, ils te disent, ouais, moi, il m'a fallu 6 mois, il m'a fallu 1 an pour être au top, quoi. Tu vois, bon, moi, je ne suis pas un trailer, hein, au-delà de 20 km, déjà 10 bornes, ça me saoule d'aller courir. Je le fais vraiment pour ma santé. Alors, j'adore courir, mais l'été, tu vois, dans la
Ah
nature,
ouais.
nu, comme ça. Mais là, en hiver, je préfère aller taper dans un ballon avec les copains, tu vois, avoir un côté ludique. Mais je le fais quand même. Une fois par semaine, je sors, quoi, et je vais courir. Mais tu t'aperçois que tu traînes au début, tu vois. Et puis, progressivement, les choses se mettent en place. Et après, donc, je vais vérifier. Je vérifierai où j'en suis à la fin de, au début de l'été. Là, on a cet été. J'ai décidé que j'allais essayer de refaire des choses que j'avais faites il y a 4 ans, 3 ans. Voilà. Sachant que je vieillis, je tiens compte de ça aussi, que je m'entraîne peut-être pas autant qu'avant. Mais je verrai l'état dans lequel je suis sur une montée du Ventoux, tu vois, sans ravitaillement, sans rien, tu vois, comme je pouvais faire avant.
Ok, on va en parler, ça, des filières énergétiques. J'ai une question dessus. Mais juste avant, pour terminer sur ton expérimentation, tu veux la pousser jusqu'où?
Ah bah pour l'instant, c'est mon régime alimentaire. Je veux dire, c'est pas une expérience, en fait. C'est pour la,
Un
voilà.
changement de croisière, tout
Un
simplement.
changement de mode alimentaire, de mode de
Ok.
vie. Et puis, tant que ça me convient, mais faut que je vérifie les effets sur 6 mois, hein, tu vois, pour vraiment se rendre compte, voilà, qu'est-ce que j'en ai retiré. Et je te dirai ça dans 6 mois, hein, si je continue ou pas. Voilà. Alors,
Ok,
je sais
d'accord.
qu'il y en a qui y sont depuis des années et des années, hein, tu vois, avec des résultats intéressants. Donc, moi, je vais faire mes analyses dans 6 mois maintenant, tu vois, je verrai où j'en suis, parce que j'ai quand même le cholestérol qui a explosé. Tu vois, ce qui est normal, puisque tu
Ouais.
consommes des graisses. Donc, quand on mesure le cholestérol, c'est le LDL, le HDL, ce sont des transporteurs, en fait. Ce n'est pas le cholestérol exactement qu'on mesure, hein. C'est des transporteurs du cholestérol. Et donc, j'ai quand même une augmentation. J'étais autour de 2,5 grammes, tu vois, de cholestérol total, et je suis passé à 3,6.
Ok, d'accord.
Avec beaucoup plus de LDL.
Oui, forcément. Hein.
Parce que tu as besoin de
Forcément.
transporteurs à un moment donné, tu vois.
Oui, forcément. Ouais.
Voilà. Par contre, mes triglycérides ont légèrement monté aussi. Tu
Ok.
vois, c'est étonnant parce qu'on te dit triglycérides, c'est surtout les sucres qui se
Ouais.
transforment, etc. Mais tu as quand même une augmentation de triglycérides, ce qui est normal parce que ce sont aussi des graisses en circulation. Bon, il
Ouais.
reste à 1 gramme, hein. Je veux dire, ce n'est pas une explosion, hein. Ils sont en dessous des normes. Mais par rapport au 0,8 où j'étais avant, tu vois, 0,7, eh ben, tu as une petite augmentation. Alors, c'est transitoire, tu ne sais pas pourquoi. Bon, voilà. Mais c'est pas, là, je ne suis pas sur un marqueur problématique, tu vois. Pour moi, les marqueurs les plus importants, c'est le HbA1c, c'est l'insuline à jeun,
Ouais.
voilà. Et les triglycérides, il ne faut pas qu'ils dépassent 1,5, quoi. 1,2, on va dire.
Ok. Du coup, ouais, sur la question des filières énergétiques, donc c'est marrant parce que là, samedi ou je sais plus, ou demain, j'ai une interview qui sort. J'ai interviewé un coureur de l'ultra qui est en cétogène depuis 8 ans. Et du coup, je vais te poser la même question que je lui ai posée à lui. On voit beaucoup de sportifs cétogènes d'endurance. Je n'ai
Ouais.
encore aujourd'hui, je n'ai jamais vu un témoignage de footballeur, de boxeur ou de sportif de l'explosivité. Est-ce
Ouais.
que c'est quelque chose qui peut se faire avec le temps? Est-ce que toi, tu en as entendu parler? Est-ce que finalement, tous les sports sont forcément... le cétogène est forcément adapté
Adapté à
à
tous
tous les
les sports,
sports?
ouais. Écoute, j'ai écouté Ulrich Génisson, là, j'ai lu un article qu'il avait fait. Sur l'origine, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un des précurseurs du cétogène en Europe, enfin dans le monde. Hein, il parlait quand même d'un gars qui a monté d'ailleurs une chaîne, hein, enfin, ils sont sur YouTube, là je suis allé les voir, là, je ne me rappelle plus leur nom, et ils font du sport de force, hein, ils font de la musculation, des HIIT, de l'haltérophilie, enfin, c'est vraiment des costauds, quoi, une masse musculaire monstrueuse, et eux, ils sont en céto. Alors, je ne pourrais pas te donner là,
Oui.
peut-être je te donnerai la référence tout à l'heure, j'irai la chercher, si ça te dit. Mais c'est la seule référence que j'ai eue. Et il cite quand même des surfeurs, où là, quand même, tu as besoin de déclenchement, de moments d'intensité importante, où tu vas aller brûler un peu ton glycogène d'ailleurs. Et apparemment, le corps est quand même capable d'aller taper momentanément dans tes réserves de glycogène pour faire des poussées d'accélération, quoi. Mais je ne sais pas si elle se répétait, tu vois, de façon très intense, si elle ne s'épuiserait pas plus vite. Mais sur un match de foot, honnêtement, moi je fais du foot à 52 ans avec des seniors, encore avec des jeunes de 20 ans, et j'arrive à avoir des accélérations, à tenir tout un match en étant assez tôt, quoi. Même à jeun, hein, le matin, tu vois, je fais mon match à 10 h, je suis à jeun de la veille, il n'y a pas de problème de réserve de glycogène, de mobilisation de l'énergie. Moi je pense que quand tu es céto adapté, tu peux sans problème faire du sport intensif. Mais non, ce n'est pas du sport de haut niveau.
Ouais.
Il faut pas la pleine puissance, tu vois, d'un boxeur qui devrait tenir avec une puissance des watts développés sur du sprint ou des choses comme ça. Donc ça, je peux pas te dire, tu vois. Voilà. Mais moi, je pense que c'est tout à fait possible parce que si tu te bases sur l'observation du mode de vie ancestral, nos ancêtres étaient en cétose. Ils ne pouvaient pas faire autrement puisqu'ils bouffaient que de la graisse, hein, un peu de protéines. Il n'y avait pas de sucre. Donc pendant des milliers, des millions d'années, il y a un moment donné où tu dis que pour aller chasser, alors bien sûr, il fallait de l'endurance. C'était que des stratégies basées sur l'endurance, mais il y avait des moments où tu devais accélérer, tu devais aller attraper la bête, enfin, tu l'as tuée, tu devais te battre, tu devais avoir des moments où tu développais des watts, tu vois, de la puissance. Et ton corps, la nature a prévu cette adaptation pour ces petits moments-là. Maintenant, c'est des moments qui ne doivent pas se répéter pendant 2 heures de façon hyper intense. Tu vois, ce n'est pas prévu par la
Ah
nature.
ouais, je vois, ouais.
Donc, ça, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire, tu vois, parce que faire du sport comme on en fait aujourd'hui à haut niveau, ce n'est pas physiologique, quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Et tu te fragilises, je veux dire, à terme. Hein, quand, voilà. Donc là, on a développé ce que j'appelle une alimentation plutôt de dopage, où tu te mets dans le ciboulot là, des taux de glucose par gel toutes les demi-heures. Je ne sais pas si tu imagines, ils finissent tous, ou alors quand ils font de la musculation à haut niveau, ils s'injectent de l'insuline, tu vois, pour prendre de la masse musculaire comme anabolisant. Et donc derrière, tu vois, avec ils se bourrent de glucides, de protéines. Pour moi, c'est pas physiologique, c'est pas santé, ça. Donc, je pense que si tu restes dans un mode de vie santé avec exercice physique intense quand même, qui ressemble à la chasse qu'on pouvait faire avant, je pense que le cétogène est bien adapté.
D'accord. Ce que m'expliquait justement ce sportif de l'ultra, c'est que le cétogène te permet de faire avancer donc du coup cette fameuse courbe là où tu utilises les graisses à faible
Ouais.
intensité et avec la courbe des glucides qui se croisent. Et qu'en fait,
Ouais.
le cétogène te permet d'augmenter ton mode de carburation aux graisses.
Ah ouais, tu carbures à fond
Et
aux
par
graisses,
exemple, pour du
plus que aux
foot, par
graisses.
exemple, quand tu es, je sais pas moi, tu vas peut-être être à fond 5 minutes sur un match d'une demi-heure, pendant 5 minutes tu vas faire des sprints, et bah sur tout le temps où tu n'es pas en train de sprinter, tu consommes, tu touches quasiment pas ton stock de glycogène. Et c'est surtout ça que
Tu
te
épargnes.
permet le
En
régime
fait,
cétogène, en fait.
ils font tout ça maintenant pour épargner le glycogène. C'est ça
Ouais.
la stratégie, en fait. Parce que quand tu épuises ton stock de glycogène, tu as le fameux mur. Tu vois, t'en as, ils arrivent, ils sont démembrés, tu as l'impression, ils n'arrivent plus à tenir debout, hein, ils rampent.
Ouais,
Quand tu
ouais.
as fini d'épuiser ton glycogène, tu ne peux plus
Ouais,
avancer.
ouais,
Tu es
ouais.
mort. Là, l'avantage c'est que tes courbes, au lieu de se croiser, c'est-à-dire au début, tu utilises le glucose à fond, hein, voilà, et quand tu es en mode glucidique, et puis très très peu de lipides. Donc tu carbures aux glucides, quoi. Et puis à un moment donné, tu épuises ton stock de glucides, et puis progressivement, tu as le lipide
Ouais.
qui prend le relais. Là, tu déstockes, tu vois, un peu du glycogène régulièrement.
Ouais.
Donc toutes les demi-heures, enfin, les mecs qui n'ont pas l'habitude de courir et de brûler des graisses, ils sont obligés de prendre des ravitaillements de sucre au bout de 3 quarts d'heure de course à pied, tu vois. Et
Ouais.
toutes les demi-heures après, il te faut un stock de gel important. Et encore, des fois, ça ne suffit pas. Parce qu'ils ont des variations glycémiques, ils les épuisent, enfin, ça ne
Ouais.
fonctionne pas. Et donc, pour épargner ton stock de glycogène, ben, en étant en cétose, tu es adapté à aller de suite chercher ton
Ouais.
énergie dans les lipides. Et tu déstockes très très fort au début des lipides et tu épuises ta réserve de lipides très progressivement. Et tu épargnes complètement ton glycogène, quoi. Enfin, tu déstockes la moitié de ton glycogène, pas plus. Sauf si tu dois accélérer à la fin, tu vois, ou si tu as une bonne côte ou tu t'arraches. Forcément, tu vas utiliser un petit peu de glucose, enfin de glycogène. Je pense que tu utilises un petit truc, mais tu tiens sans borne. Je veux dire, moi j'ai mon beau-frère, il fait du trail comme ça en cétose et il a voulu tester sans ravitaillement, à jeun le matin, partir et tout. Il a fait 60 bornes pieds nus, hein, parce qu'il s'est mis aux pieds nus en traversant la Corse et tout seul comme ça, sans ravitaillement, sans rien, juste un peu d'eau, quoi.
Ouais.
Tu vois? Et pas faim, pas soif, 11 h 30 de course, quoi.
Ouais.
Il a bu quand même, hein. Mais 11 h 30 de course, il n'a pas mangé un iota, quoi.
Ouais. Ouais.
Tu vois? Alors, tu fais ça en régime glucidique, tu ne peux pas.
Oui, ça on est d'accord, ouais. Ça on est d'accord. Mais si un jour tu trouves en tout cas un
Pour les
sportif
filières.
explosif, franchement, ça
Ouais.
m'intéresserait beaucoup qu'on
Ouais.
en
Mais
parle
écoute, je
parce
vais te le dire,
que
moi, après. Parce que moi, je fais des hits de temps en temps, des petits trucs, tu vois.
ouais.
Pour l'instant, ce n'est pas encore l'hyper-adaptation, tu vois, je pense. Mais là, je vais refaire des matchs de foot qui, pour moi, sont durs. Hein. À 50 ans, faire des sprints, ce n'est pas facile.
Ouais.
Donc, je te dirai où j'en
Ok.
suis. J'attends encore un mois, là. Et puis, ça va être la saison, là.
Ça marche. Bah écoute, on suivra ça avec attention alors.